Vous écoutez RTL.
Olivier Mazerolle, vous recevez à 7h47 Brice Hortefeux, député européen et ancien ministre de l'Intérieur.
Bonjour Brice Hortefeux.
Bonjour Olivier
Mazerolle. Vous étiez à Bruxelles hier, au Parlement européen. Vous avez vu la Belgique en plein drame. Quand un pays ami comme celui-là, comme la Belgique, est frappé, on se sent tous solidaires, on se sent tous européens. Solidaire dans la douleur, mais l'Europe ne sait pas se défendre. Pourquoi ?
Oui, d'abord c'est exact. J'étais hier au Parlement européen, dans une enceinte donc, des institutions européennes, quand j'ai appris le matin le drame qui touchait donc un aéroport. J'étais d'ailleurs la veille. Et toucher un aéroport, ça veut dire que l'on s'en prend à un endroit où lieu de passage, de brassage, d'ouverture sur l'Europe, bien sûr, d'ouverture sur le monde. Et ensuite, à une institution européenne. Là aussi, c'est très symbolique, parce que Bruxelles, en réalité, c'est la capitale administrative de l'Europe, et les institutions européennes, ce sont sans doute les entrailles qui ont été meurtries. Alors, ce qui est vrai, c'est que on vit les choses un peu particulièrement, je le dis d'ailleurs avec un peu d'émotion, et on vit les choses un peu particulièrement quand ce sont des lieux qui vous sont familiers. Ces lieux m'étaient très familiers. Mais ceci rappelle surtout que personne aujourd'hui, j'insiste bien, personne n'est épargné par ces risques. Si vous observez ce qui se passe, il y a une succession d'attentats qui alimentent une insupportable routine. Parce que c'est la Belgique, c'est la France, c'est Tunis, c'est Jakarta, c'est Ouagadougou, c'est Bamako, et ainsi de suite.
La même origine partout ?
Souvent la même origine. Et ça veut dire que...
C'est-à-dire quoi ? L'islam radical ?
Bien sûr, des extrémistes, des terroristes, appelez-les comme vous voulez, des radicaux, mais...
Mais liés à l'islam ?
Ce sont, pour la plupart des cas, des fanatiques extrémistes que les modérés de la religion musulmane naturellement condamnent, mais ce sont des fanatiques et des extrémistes. Et donc ça rappelle qu'il ne faut en aucun cas céder à la panique, céder à la peur, et surtout céder à la tentation de la paralysie.
Oui, alors justement, on entend constamment les responsables européens, les différents ministres, encore Bernard Cazeneuve hier à l'Assemblée nationale, disant « mais on a adopté des textes européens, il faudrait les mettre en œuvre, il faudrait que Frontex soit mieux armé, etc. » Mais on n'y arrive pas,
bon,
ça fait 15 ans qu'on entend parler de ça.
Vous avez raison, mais d'abord, il ne faut pas être dans le déni. J'entends que certains ont des pudeurs à utiliser le mot « guerre », sous prétexte que Daesh, ce n'est pas un État au sens onusien du terme. Bien sûr, et sur ce point, il a parfaitement raison. Oui, c'est une guerre, c'est durable, ça sera difficile à surmonter, et la réalité que l'on doit bien avoir en mémoire et en tête, c'est que l'Europe est en guerre et que la guerre est en Europe, et c'est durable.
Alors, mais pourquoi les pays européens n'arrivent-ils pas à créer, par exemple, ce FBI, cette sorte de FBI européen ? Non. Qui permettrait d'échanger entre tous les pays de l'Europe des informations capitales.
Bien sûr, informations qui manquent. Quand vous voyez qu'un des principaux concernés a été contrôlé en France et qu'il a été contrôlé, et à l'issue du contrôle, on a constaté qu'il s'agissait, qu'il était plus ou moins concerné par un trafic de drogue, alors que les Belges, eux, l'avaient entendu pour une menace de départ.
Alors, si on n'arrive pas à s'entendre tous,
départ,
qu'est-ce qu'il faut faire
en Syrie ?
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se replier sur soi,
premièrement,
se dire un pays tout seul, il est...
Premièrement, ne pas être dans le déni. Deuxième élément, tirer les leçons de ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. 6 à 7 attentats déjoués chaque année. Le coordonnateur antiterroriste européen dit qu'il y a eu 1000 attentats qui ont été évités, déjoués au cours de ces 5 dernières années. Bien intégrer le fait que la France est aujourd'hui le premier pays de départ vers le djihad. Il faut intégrer bien cela. Ensuite, il faut mettre fin. Au chaos migratoire. Au cours de l'année 2015, on nous a expliqué qu'il y avait quelques centaines de milliers de personnes qui avaient franchi illégalement. À la fin de l'année 2015, c'était 1 million. Non, la réalité, c'est qu'il y a eu juridiquement 1 800 000 franchissements illégaux. Que depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, les chiffres, on les connaît depuis 48 heures, il y a eu 156 000 franchissements illégaux. Ça signifie quoi ? Ça signifie que dedans, il y a, comme le dit Frank Timmermans, le vice-président de la Commission, 60% de ceux qui tentent de passer ne sont concernés en rien par des demandes de statut de réfugié, et qu'il y a bien évidemment dedans un grand nombre de terroristes potentiels qui pénètrent en
Vous
Europe. C'est ça la réalité.
Il y a des infiltrations.
Je ne le pense pas, j'en suis convaincu.
Mais
donc c'est ça la
quel
réalité.
Quel nombre à peu près ?
Alors, ça je ne peux pas savoir. Donc il faut mettre fin au chaos migratoire. Ensuite, il faut effectivement rétablir temporairement les frontières. Pourquoi faut-il rétablir les frontières ? Parce que nous avons deux écueils. Premier élément, il est beaucoup trop facile aujourd'hui pour un étranger de pénétrer dans l'Union européenne avec ou sans raison crédible d'y demander l'asile. Première raison. Et deuxième raison, un étranger qui a pénétré dans l'Union européenne, pour lui, c'est très commode de voyager librement, sans contrôle, d'un pays à l'autre.
Mais donc, frontières européennes ou frontières nationales ?
Et il faut deux choses. Il faut naturellement des frontières européennes qui soient en progression et qui soient consolidées, qui soient confortées. Et je ne comprends pas d'ailleurs, au-delà des effets d'annonce des gouvernements, notamment français, et vous avez une demande très claire de Frontex, l'agence qui est chargée de protéger les frontières extérieures, qui dit une chose simple. Il dit aujourd'hui, il n'y a que 40% des demandes que nous formulons qui sont satisfaites par les États. Donc les États doivent assurer leur
renforts.
Pour envoyer des renforts, pour envoyer des moyens, de la technologie,
ainsi de suite. Est-ce qu'il faut fermer les frontières françaises ?
Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept, pas huit. Plein de pays qui aujourd'hui décident de fermer les frontières, de les protéger davantage. Et je vous le dis, c'est indispensable pour les deux raisons que je viens d'indiquer. Trop facile d'accès, trop commode pour voyager librement à l'intérieur de chaque État.
Un mot sur la réforme constitutionnelle. Le Sénat, hier, a voté la réforme constitutionnelle sur la déchéance de la société en des termes différents de ceux de l'Assemblée nationale. François Hollande doit renoncer ?
Écoutez, François Hollande s'est pris les pieds dans le tapis alors qu'il nous espérait nous faire trébucher. La réalité, c'est que le Sénat a été à la fois responsable et lucide en proposant une rédaction qui était d'ailleurs celle que proposait un peu le président de la République il y a quelques mois.
François
et aujourd'hui
Hollande doit renoncer ?
En tout cas, moi je ne suis pas conseiller de François Hollande, mais j'observe une chose, c'est qu'il s'est bien pris les pieds dans le tapis une nouvelle fois.
En revanche, vous connaissez bien Nicolas Sarkozy, après la décision de la Cour de cassation hier qui a validé les écoutes téléphoniques dans l'affaire Azibert. Il est menacé d'être traduit en correctionnel avant la présidentielle. Il pourra se présenter quand même ?
Bon, je comprends votre question. Je vous dis une chose simple, Nicolas Sarkozy. Et autour de Nicolas Sarkozy, ce sujet n'est pas aujourd'hui notre préoccupation.
Ah bon ?
Et Nicolas Sarkozy veut une chose simple, c'est que nous soyons à l'unisson de la communauté nationale, la communauté européenne, qui est naturellement particulièrement touchée, heurtée, parce qu'il
s'est...
Pardon,
mais là vous mettez un peu en touche.
Non, attendez,
je tiens,
libre à dos de se préoccuper de la primaire. La primaire, c'est un destin personnel. Nicolas Sarkozy veut que nous ayons une préoccupation collective. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est une procédure d'étape que nous avons eue hier. Procédure d'étape. C'est une étape. Ce n'est pas autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Nicolas Sarkozy, n'a pas été condamné. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas renvoyé devant un tribunal.
Non,
c'est
enfin,
ça la réalité.
Bah, attendez, probabilité.
Si vous me demandez ce que j'en pense, j'aimerais bien vous le dire, mais je préfère ne pas le faire.
Pourquoi ?
Même si...
Mais dites-le,
même si, mais attendez,
qu'est-ce que vous
pensez ? Attendez, je vais vous expliquer. Même s'il n'y a pas besoin d'être un médium extra-lucide ou un forcené de la télépathie pour deviner ce que je pense.
Mais beaucoup, c'est une décision politique,
mais pourquoi,
c'est ça que vous voulez dire ?
Pourquoi je vous ne réponds pas ? Parce que mon sentiment n'est pas intéressant. En revanche, celui qu'exprime aujourd'hui même le bâtonnier de Paris, Maître Sicard, à la tête d'un barreau de 27 000 avocats, qui se déclare ce matin scandalisé par cet arrêt, scandalisé, et qui poursuit d'ailleurs, et je cite ses propos, et il poursuit « à vouloir courir à tout prix derrière Sarkozy, les juges ne se rendent pas compte qu'ils portent atteinte à la démocratie ». Ces mots sont forts, ces mots sont lourds, ces mots sont graves, et je pense que tout est dit.
Et un condamné peut éventuellement se présenter à la présidentielle ?
Je peux recommencer, si vous voulez, mais je vous redirai la même chose.
Merci, Brice Hortefeux.
Une dernière question, Brice Hortefeux. Est-ce que, comme Éric Ciotti, vous pensez qu'il faut interdire les fameuses fan zones ? Vous savez, ce sont les zones de fans devant les écrans géants durant l'Euro de football, par mesure de prévention.
Il y a une panoplie de mesures à prendre. Peut-être celle-ci serait utile. Naturellement, ça sera un état de vigilance absolue, parce que les risques sont élevés.
L'Europe est en guerre et la guerre est en Europe, nous a dit l'ancien ministre de l'Intérieur. Merci à tous les deux. Un entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.